Vous écoutez
RMC. RMC, l'interview.
Mathieu Rouault.
8h39, vous écoutez RMC avec nous. Patrick Peloux, médecin urgentiste, président de l'Association des médecins urgentistes de France. Patrick Peloux, bonjour.
Bonjour.
Je précise aussi, auteur de Urgence de vivre aux éditions du Cherche Midi, c'est paru fin novembre, le 26 novembre. Aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre, ça y est, repas de fête ce soir. Les Français vont enfin se retrouver en famille, pouvoir le faire, pas de couvre-feu en plus. Est-ce que c'est une soirée à risque, soirée de tous les dangers?
Non, écoutez, non. N'exagérons pas. Écoutez, il faut sortir de ce côté. On va punir le pays en permanence. Ça fait 9 mois que vous avez le pays qui est contraint. 9 mois que finalement vous avez un peuple qu'on disait revêche à l'autorité, qui a respecté le confinement, le port du masque, le gel hydroalcoolique. On a fait des progrès considérables sur l'hygiène.
Vous, médecin urgentiste, Vous dites aujourd'hui aux Français, lâchez-vous ce soir.
Non, pas lâchez-vous, c'est-à-dire que, mais vous savez, les gens en plus, ils sont vachement intelligents, ils ont bien compris, je le vois autour de moi, et les gens vont respecter un semblant de geste barrière autour de la table, le gel hydroalcoolique, les masques, on aère la maison ou l'appartement. Tout le monde mange autour de la table, mais on essaye de faire un petit peu de distance quand c'est possible. Il faut penser aussi à ces familles qui n'ont pas forcément des logements très grands, mais qui ont besoin de se retrouver. Vous savez, je crois que Noël est vraiment une symbolique sociologique énorme. Évidemment, c'est pas Noël pour tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas de famille ou qui sont seuls.
10% des Français, c'est en hausse cette année. 10% seront seuls ce soir.
Voilà. Pour ma part, je fais ramassage scolaire et je récupère tous les potes et les amis qui sont un peu seuls.
Alors, combien, parce que je vous rejoins, oui, les Français sont responsables. D'ailleurs, sondage Odoxa pour le Figaro, la majorité des Français fêteront Noël chez eux, à domicile, ils seront moins de 6 à table. Ce sera le cas chez vous, Patrick?
Oui, on va être exactement... ce midi et ce soir, on sera 4, et demain midi, on sera 6, et vraisemblablement, on sera 8 demain soir.
Mais cette recommandation, d'ailleurs, de 6 à table, pourquoi pas 5, pourquoi pas 7?
Bon, je pense que c'est, écoutez, ils ont fait ça au doigt mouillé, comme on dit, ils ont pris ces décisions. Il faut pas leur en vouloir, vous savez, je pense que jamais vous avez eu un gouvernement, probablement, en fait, là, on peut prendre cette référence depuis la Seconde Guerre, qui a été à des choix aussi difficile. Je me mets à la place du Premier ministre Jean Castex, c'est pas facile du tout. Faut qu'on soit plutôt dans l'unité, même s'il y a des mesures qu'ils ont prises ou pas prises qui sont en effet un peu critiquables.
Bon, quand même, je reprends ce sondage. Alors oui, les Français sont responsables, mais chiffre plus inquiétant, 63% des Français reconnaissent qu'ils ne porteront pas le masque ce soir. Alors
ça, il faut qu'ils
distance
mangent.
D'accord.
Faut manger et picoler un petit peu quand même. Donc ils peuvent pas avec le masque, mais ce n'est pas grave. Alors vous savez, j'ai vu des choses très intéressantes et j'en ai discuté notamment avec des pharmaciens. Les gens vont se faire tester. C'est pas si bête en fait. Ils vont se faire tester.
C'est pas la majorité, hein.
Non, il y a quand même du monde. Il y a quand même du monde.
Mais vous savez, 2 millions peut-être.
Oui, peut-être. Mais il y a beaucoup de gens qui se font tester. Vous savez, il y a une habitude.
C'était utile de le faire, Patrick Peloux, pour se rassurer.
C'est fait pour se rassurer. Deuxièmement,
mais attention à ne pas avoir cet excès de confiance avec un test.
Il y a des faux négatifs, des faux positifs. Donc d'un coup, il y a une relativité des tests. Mais les gens le font. Vous voyez, vous avez des gens qui prennent l'avion là, qui partent voir leur famille, qui sont un petit peu éloignés. Tout le monde fait le test. Vous avez quand même une habitude. Je trouve qu'on a adapté progressivement la population. C'est adapté à cette nécessité. Ils ont compris la nécessité d'avoir un test et des gestes barrières. Donc moi, je suis pas pessimiste et je suis pas pour brimer ou blâmer ou vouloir contraindre encore plus la société.
Alors je regarde en revanche chez nos voisins, la Belgique, un seul invité par foyer, 2 pour les personnes qui vivent seules. Le Luxembourg, pareil, seulement 2 invités. Est-ce que nous, en France, on ne prend pas ce réveillon un peu trop à la légère?
Non,
Karine Lacombe était à ce micro hier, face à Apolline de Malherbe. Elle rappelait la plupart des contaminations en ce moment et la plupart des entrées en réanimation en ce moment sont des Français, des Françaises qui se sont fait contaminer lors de réunions de famille.
Oui, écoutez.
C'est maintenant la chasse à la famille.
Non, moi, je suis pas pour. Voilà, quand vous voyez ce qui se passe dans les transports, etc., où les gens sont quand même relativement agglutinés, je sais pas d'où en fait la relativité de ces études. Vous comparez avec d'autres pays, faut comparer ce qui est comparable.
Vous doutez des études de l'Institut Pasteur, de l'Inserm, qui.
Écoutez, sur le premier confinement, ils avaient dit voilà, il y a un risque de contamination sur les salles de spectacle, elles étaient fermées, donc il y a quand même un truc un peu relatif, hein, vous en étiez fait l'écho d'ailleurs, hein, donc c'est je sais pas. Écoutez, le truc, c'est comparé à d'autres pays, les pays n'ont pas fait pareil. Je vous rappelle que l'Angleterre, hein, vous aviez quand même Boris Johnson, qui est un peu le bénil de la politique anglaise. Hein. Mm-hmm. Il avait dit non, le coronavirus n'existe pas. Bon, après, il l'a attrapé, il s'est dit, ah bah mince. Et puis là, il y a 4 jours, il a dit, oulala, il mute, attention, ça va être une catastrophe. Faut rester très prudent, parce que vous avez des gens qui nous écoutent, vous le savez, vous avez des gens qui sont très réceptifs. Et moi, ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas que le coronavirus en France, figurez-vous, et vous le savez. Hein, il y a aussi les autres maladies. Et là, ce qu'on voit, c'est que les gens sont tristes, malheureux, dépressifs. On a augmenté le nombre de ventes des anxiolytiques et des antidépresseurs. Et on a, c'est l'alerte qui a été poussée par des psychiatres et des pédopsychiatres, hein, des psychiatres pour les enfants, il y a une montée des suicides. Donc, il faut donner un petit peu de douceur. La douceur, elle vient là, sur le fait que on a reçu cette nuit, j'étais de garde, on a reçu les documents, hein, de l'Agence Régionale de Santé. Il faut saluer le boulot que fait le directeur de l'Agence Régionale de Santé, d'ailleurs. Ça y est, l'organisation des vaccins pour l'Île-de-France est quasiment faite, et je pense que ça doit être le cas un petit peu partout en France.
Alors, nous allons revenir sur les vaccins dans un instant, mais justement, vous étiez de garde cette nuit. La situation dans les hôpitaux, une nuit de garde en période de Noël, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est pas là qu'on voit le plus, qu'on subit de plein fouet la baisse des effectifs à l'hôpital?
Alors, écoutez, la baisse des effectifs, c'est encore vrai. D'accord. C'est encore vrai, malgré l'effort du contribuable, hein, d'ailleurs plus que l'effort politique, c'est l'effort du contribuable, 8 milliards d'euros qui ont été mis sur la table au mois de juillet, mais ça a été insuffisant en ce sens que c'était pas de mettre 15-20 milliards d'euros, c'était pas ça. C'est-à-dire que mettre 8 milliards d'euros dans un système qui, à mon avis, a besoin d'être rénové, notamment le monde hospitalo-universitaire qui fonctionne sur des lois et des statuts de 1958. On est en 2020, 2021 maintenant, heureusement d'ailleurs, mais voilà, il y a des réformes vraiment profondes à avoir pour faire que le monde de la santé travaille ensemble.
Vous faites partie de ce personnel soignant. Concrètement, que vivez-vous de ces réveillons de Noël au boulot?
Il y a des lits qui sont fermés, mais il a fallu, et là, comme on a une baisse de fréquentation avec la Covid-19 et des hospitalisations, il y a dans certains endroits, on a pu finalement reprendre un rythme normal et reprendre les activités programmées, et fort heureusement, puisque vous l'aviez entendu, notamment au printemps dernier, l'alerte des cancérologues disant qu'on avait augmenté la mortalité de certains cancers quand on a fait la bêtise au mois de mars et au mois d'avril de dire on soigne plus que le coronavirus. Bon, donc du coup, vous avez un personnel qui est à bout, c'est-à-dire qui est fatigué, hein, parce que nous aussi, hein, les auditeurs aussi, on est fatigués de cette épidémie, mais elle va continuer. Donc il y a besoin un peu de souffler, mais les hôpitaux sont dans une situation vraiment très inquiétante, d'autant que, en fait, si vous voulez, à l'heure où il aurait fallu réouvrir des lits de réanimation médicale, parce que c'est ça l'urgentissime en France, monter le nombre d'internes de réanimation médicale en formation, réouvrir des lits de réanimation médicale...
En surnombre.
En surnombre. Il faut écouter, il va y avoir de toute façon une troisième
vague. Nous sommes sous-dotés en France.
On est sous-dotés. On a trop fermé de lits, hein, 100 000 au cours des 20 dernières années.
Et cette troisième vague qui arrive, nous n'y sommes pas prêts.
Si, parce que on a fait face à la première, à la deuxième. Donc, du coup, ça permet à une technostructure et à des directeurs de dire, bah, finalement, on a fait face. Donc, voyez, on a le ton juste sur les fermetures de lits et les restrictions de personnel. Moi, je pense qu'ils ont tort. Il faut, dans chaque région, permettre d'avoir une surdimension des hôpitaux pour accueillir, parce qu'en fait cette crise du coronavirus, si vous la reprenez à la base et à son analyse, c'est ni plus ni moins qu'une crise de l'hôpital qui est vécue par la société.
Alors, le vaccin désormais, est-ce que vous avez lu Emmanuel Macron dans l'Express Patrick.
Oui.
Toutes les sociétés contemporaines vivent cette espèce d'horizontalisation qui mène à quoi ? Au complotisme, Patrick Peloux. Cette défiance envers l'autorité politique, envers l'autorité scientifique aussi. C'est la meilleure alliée du Covid. C'est la meilleure alliée pour que la pandémie ne s'arrête jamais et que les Français, par exemple, refusent le vaccin.
La culture, le manque d'éducation est le meilleur allié des extrêmes, hein, que ce soit les extrêmes religieuses comme l'islamo-fascisme ou les extrêmes politiques. Donc du coup, il faut se battre contre ça. Si vous êtes scientifique, vous croyez de toute façon au vaccin. D'accord.
Moi, vous allez vous faire vacciner?
Oui, bien sûr. Mais c'est une évidence.
Le vaccin Pfizer, celui qui arrive et qui est tant décrié, l'ARN messager.
Mais formidable.
Aucune inquiétude.
De moins en moins d'inquiétude. Il y a de plus en plus de gens qui sont en train d'être vaccinés en Angleterre, aux États-Unis. Je peux vous garantir que tout est surveillé par toutes les organisations de la santé. Il se passe.
Mais ça, le personnel soignant, Patrick Peloux, va. Pas en majorité, mais en très grand nombre, refuser ce vaccin. C'est ce que disent les enquêtes d'opinion. C'est aussi la réalité pour le vaccin contre la grippe.
Alors, vous avez raison. C'est pas qu'ils le refusent, c'est qu'il y a une
dans les EHPAD, le personnel soignant, vaccin contre la grippe, seulement 32%.
Oui.
48% des sages-femmes seulement sont vaccinées contre la grippe.
C'est à chaque fois, et c'est un vrai débat dans le monde de la santé. Et je pense qu'il y a un côté, je suis soignant, donc quelque part ma blouse blanche me protège. Mais par exemple cette année, il y a une vraie campagne de prévention du vaccin contre la grippe. Il y a eu une rupture de stock des vaccins contre la grippe. Hein. Il y a plein de gens qui n'ont pas pu être vaccinés. Donc il suffit que ça soit bien fait. Là, on est à un enjeu citoyen, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, je me vaccine, ou je me vaccine pas, mais je me vaccine, c'est pour vous protéger. C'est pour protéger mes proches, pour protéger mes amis, pour protéger les plus fragiles. Je ne me vaccine pas, je prends un risque, et je prends un risque pour les autres.
Alors, est-ce qu'il faut instaurer ce fameux passeport sanitaire dont on parle depuis quelques semaines? C'était l'objet d'une proposition de loi d'une députée. On voit que c'est envisagé dans un projet de loi gouvernemental qui sera discuté dans les prochains mois, après la crise du Covid.
Alors écoutez, je pense que le...
Refuser l'accès à certains lieux de culture, par
savez,
exemple,
le
de prendre l'avion pour ceux qui ne veulent pas se faire vacciner.
Il faut que le politique ne soit pas emporté et contemplatif par rapport aux évolutions de la société. Regardez ce qui se passe dans les avions. Les avions, et c'est pas une si mauvaise chose que ça, demandent des tests et de pouvoir transporter des gens négatifs. C'est
normal.
C'est normal, en fait. Parce que
ils le font déjà pour la fièvre jaune,
voilà,
par exemple,
même etc. Si, il faut rassurer les gens, vous avez des flux d'air, on va pas rentrer dans ces détails, mais des flux d'air qui sont très contrôlés dans les avions, donc en gros, c'est renouvelé. Mais c'est quand même quelque chose d'important à voir. Donc du coup, ce passeport va très probablement s'imposer de lui-même, d'accord, de manière à être sûr que c'est une opportunité. On peut pas rester contemplatif par rapport à une épidémie qui est en train d'emporter les sociétés,
s'imposer
avec un risque d'écroulement du pays.
S'imposer de lui-même, donc rendre cette obligation vaccinale de fait.
Alors, de fait, sauf que vous avez le président de la République qui a dit qu'il ne voulait pas le rendre obligatoire, mais il va s'imposer et être finalement, il va être rendu obligatoire par les faits. Par exemple, on pense très facilement aux malades que nous suivons et qui sont potentiellement graves, d'accord, et qui ont pour l'instant échappé au coronavirus, mais il faut vraiment qu'ils se vaccinent, quoi. Ceux qui ont des traitements avec des immunosuppresseurs, etc., va falloir vraiment les protéger. Et donc ça, si vous voulez, c'est une échéance qui est hyper stratégique et importante.
C'est la condition pour la vie d'après.
Oui, c'est la condition.
Les théâtres, les cinémas. Les restaurants.
Oui, oui.
Prochaines échéances, 7 janvier pour les lieux de culture, 20 janvier pour les restaurants. Vous y croyez vraiment?
Moi, je veux y croire parce que je crois en mon pays et je veux être optimiste. Je crois que collectivement, on aurait beaucoup de mal à vivre un nouveau confinement. D'accord? Parce que je vous assure, le
moral des
gens.
Certains le réclament.
Oui,
dans certains... le Grand Est notamment,
oui,
où les chiffres sont très mauvais.
Oui, mais écoutez,
confinement locaux peut-être, adapter une stratégie.
C'est déjà ce qu'on fait, vous savez, pour un certain nombre de maladies, c'est l'isolement, notamment quand vous avez des foyers qui arrivent, il faut faire au cas par cas, au coup par coup. la culture, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Moi, je soutiens le fait que, si vous voulez, quand vous voyez les gens qui sont allés dans les magasins, vous dites, bah, alors dans les théâtres, et je connais un certain nombre de directeurs de théâtre qui ont organiser leur salle de spectacle comme finalement des unités de réanimation ou des passages à l'hôpital. Donc il faut redonner il faut redonner l'accès à la culture. C'est hyper stratégique pour le moral des gens. Et là, si vous voulez, l'échéance de se dire on ferait un on-off, des coups de boutoir comme ça pour faire arrêter la société et la relancer. C'est vraiment quelque chose. Je pense qu'on va finir par jouer avec le feu sur la société et la politique.
Mais alors justement, Patrick Peloux, qui doit décider? Et ce sera ma dernière question. On parlait de défiance tout à l'heure, de défiance envers l'autorité politique médicale. Qui doit décider? Ce fameux conseil scientifique dont vous demandez toujours ou pas la dissolution?
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous savez pourquoi? Parce que en fait, vous pouvez pas concevoir la politique en France par un conseil scientifique ou, comme certains du conseil scientifique d'ailleurs l'avaient dit vers le mois de juin, finalement. On pourrait gérer la France avec des experts. Donc, nier la démocratie. Si nous nous sommes battus au cours de notre histoire, c'est pour avoir des gens qui décident de manière démocratique. C'est pas des ânes battés, c'est pas des andouilles. Vous avez un pouvoir qui est un pouvoir politique par le président de la République, qui est le chef de l'État. On aime, on n'aime pas, mais c'est le chef de l'État et on le suit parce qu'on est dans l'unité et parce que nous avons un pays en crise. On a un premier ministre, un gouvernement. Et il y a des assemblées. C'est là où doivent se prendre les débats, les décisions. C'est ce que je constate plus ou moins. Mais j'ai bien senti, on va se le dire, j'ai bien senti une certaine vanité d'un certain nombre de professeurs de médecine notamment.
Membres de ce conseil scientifique.
Mais finalement, on peut prendre le pouvoir, on peut décider, on peut contraindre la société. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis juste un médecin médecin très humble, d'accord, hein, et je soigne des malades. Maintenant, c'est aux politiques de décider.
Patrick Peloux, médecin urgentiste, président de l'Association des médecins urgentistes de France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Joyeux Noël.
Et joyeux Noël.
Joyeux Noël.